Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'épître est tiré du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, je ferai couler sur elle comme un fleuve de paix, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez nourris de lait, portés sur le sein, caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai et vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront vigueur comme l'herbe et la main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs. Veuillez vous lever pour l'évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui, selon vous, est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, appelant un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « en vérité, je vous le dis. » Si vous ne vous convertissez et ne devenez pas semblables à des petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui sera fait petit comme un petit enfant, c'est lui qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui la fête d'une des patronnes de la France, patronne secondaire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le bon Dieu, l'Église, dans sa bonté, a donné protecteur à certains pays. Et à certains pays qui ont beaucoup plus reçu que les autres. Nous, en France, l'Église nous a accordé 4 protecteurs. Pourquoi ? Peut-être parce que le bon Dieu savait que la France allait tomber encore plus bas que les autres. Et qu'on allait sans doute avoir besoin encore plus d'aide. La France est en principe la fille aînée de l'Église. Même si, historiquement parlant, le premier pays à se convertir ne fut pas la France, mais l'Arménie. Convertie par un très grand saint, Saint Grégoire l'Illuminateur. Enfin, en tant que pays, on considère quand même que c'est la France avec la conversion de Clovis en 496. Par Saint Rémy, évêque de Reims. Et donc Dieu a mis 4 protecteurs pour la France. Notre-Dame de l'Assomption, Saint Michel, Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Plusieurs remarques. Première remarque, sur les 4, il y a 3 femmes. Je ne veux pas dire que bon Dieu soit féministe, rassurez-vous, mais enfin, il faut quand même le noter. 3 femmes sont protectrices de la France. Deuxième remarque, sur ces 4 protecteurs, il y en a 3 qui sont des soldats. Notre-Dame est considérée comme soldat, hein, puisque il est dit justement qu'elle sera forte comme une armée rangée en bataille. Saint-Michel est chef de la milice céleste. Sainte Jeanne d'Arc est vierge soldat, vierge guerrière. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On voit très bien qu'il y a les 2 choses qui sont exprimées. La force, l'action et la contemplation. Ou bien justement nous montrer qu'il faut les 2. Il faut la force parce que le démon évidemment fait tout pour détruire les peuples chrétiens. Pourquoi est-ce que le démon s'est attaqué surtout en France? On voit très bien comment le démon actuellement s'attaque à la France d'une façon toute particulière. Pour détruire complètement l'âme même de la France, l'âme de nos familles catholiques et surtout l'âme de nos enfants. Pourquoi? Précisément parce que la France est fille aînée de l'Église et que démons se vengent en attaquant surtout la France. Et donc il va falloir qu'on se batte en France. Il y a un combat terrible qui va s'effectuer, si vous voulez, entre 2 mondes. Je vous ai souvent déjà expliqué ces choses-là. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Le monde de notre Seigneur Jésus-Christ, fondé sur Dieu, et le monde de la Révolution, fondé sur l'homme. Et alors, c'est ce combat terrible. Voilà pourquoi l'Église a voulu que 3 des protecteurs soient des guerriers. La Très Sainte Vierge Marie est une guerrière. On a un peu trop tendance à considérer la Très Sainte Vierge Marie comme une femme toute gentille, toute douce. C'est pas ce qu'il a été dit d'elle. Rappelez-vous la prophétie de Dieu. Elle écrasera la tête du démon. C'est un acte de force. Et donc, pour quelque sorte contrebalancer cette action, il faut aussi la contemplation. Et voilà pourquoi l'Église a choisi comme protectrice aussi Sainte Thérèse. Une petite jeune fille, pratiquement inconnue de son temps, morte à 24 ans, en 1897. Canonisée comme sainte par le pape Pie XI en 1925. Et lorsque le pape l'a canonisée, le pape Pie XI a canonisé, il a dit que c'était peut-être la plus grande sainte de tous les temps. Et il a voulu justement qu'il y ait cette contemplation. La Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'était pas religieuse dans un ordre actif, dans un ordre contemplatif, s'il en est un, c'est à savoir l'ordre du Carmel. Et non seulement, ça c'est très important à comprendre, non seulement le bon Dieu a voulu que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc une contemplative, soit protectrice de la France, mais vous savez que l'Église a nommé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus comme protectrice spéciale de toutes les missions du monde entier. Et s'il est une activité active, c'est bien sûr les missions. Missionnaires qui partent se faire dévorer par les moustiques ou croquer tout cru ou tout bouilli par les anthropophages. Ça, c'est de l'action au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le bon Dieu a voulu, vous voyez, cet équilibre entre l'action et la contemplation. Je pense qu'il y a un modèle pour nous. Nous aussi, il faut faire très attention à garder et l'action et la contemplation. Il faut que la contemplation contrebalance l'action. S'il n'y a que l'action et j'oublie la contemplation, je vais tomber dans les travers extrêmement graves, des maladies spirituelles qui peuvent tuer une âme. Si je n'ai pas de vie de prière personnelle, si je ne sais pas m'arrêter pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, comme doivent le faire tous les catholiques, je vais tomber par exemple dans l'activisme. L'activisme qui a tué complètement les prêtres des années 60. L'activisme, c'est quoi? C'est une erreur très grave qui consiste à remplacer la prière par l'action. Ce sont les prêtres qui ont dit, Monsieur l'abbé, j'ai trop de travail à faire, trop d'activités apostoliques, donc j'ai plus le temps de prier, mais à la place, je vais voir les malades, à la place, je fais des tas de choses de ce genre. Attention. Et s'il n'y a plus de contemplation, c'est comme quelqu'un qui dit, j'ai pas le temps avec ma voiture de m'arrêter à une station-service pour faire le plein, donc je continue, comme ça je peux voir plus de choses, je peux faire plus de choses. Il faut savoir s'arrêter à la station-service pour faire le plein. Deuxième conséquence de ceux qui poussent trop sur l'action et qui oublient la contemplation, c'est le volontarisme. Volontarisme, c'est plus subtil comme erreur. C'est une erreur gravissime. Des gens qui consistent à dire, ceux qui disent, voilà, je vais obtenir la conversion de telle personne. Je vais faire pénitence, je vais prier, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais obtenir la conversion de cette personne par la force de mon poignet. Qu'est-ce qu'ils oublient, ces gens? Ils oublient que ce n'est pas nous qui convertissons les gens, c'est Dieu qui sert de nous comme des instruments. C'est Dieu qui convertit. Donc le volontarisme a aussi détruit beaucoup de choses. La France catholique des années 60, au début de Vatican II, avec Vatican II, c'est 62-65, a été détruite complètement par cet esprit d'activisme. Les prêtres ouvriers des années 60, c'est ça. Ils ont complètement oublié leur rôle de contemplation. La contemplation, si vous voulez, c'est comme, comparaison qu'on peut donner, comme un paratonnerre sur une maison. Paratonnerre, a priori, ça n'a pas grand-chose d'important. Une barre de fer qui est au sommet de la cheminée, ça sert à quoi? Mais s'il n'y a pas de paratonnerre dans la maison, que la foudre tombe sur la maison, c'est la maison qui brûle. S'il y a un paratonnerre, c'est le paratonnerre qui prend la charge électrique et la maison protégée. Donc je pense que la grâce qu'il nous faut demander aujourd'hui, mes bien chers frères, c'est cette grâce d'avoir un esprit contemplatif. Rappelez-vous votre Sainte Vierge Marie, quand elle ne comprend pas tout. Quand Saint Simon lui dit, un glaive de douleur vous percera l'âme au moment de la présentation de l'enfant Jésus au temple, elle lui se posait des questions quand même. Quand notre Seigneur Jésus-Christ reste au temple de Jérusalem à 12 ans sans même demander la permission de ses parents, sans même les avertir, elle a dû aussi se poser des questions. Et qu'est-ce que dit l'Évangile? La très sainte Vierge Marie conservait toutes ces choses en son cœur, les méditant sans cesse. Elle est devenue une âme contemplative. Et c'est pour cela qu'elle est au pied de la croix. Donc il nous faut, nous aussi, mes bien chers frères, avoir cette âme contemplative, C'est absolument fondamental aujourd'hui. C'est la grande tentation, je pense, pour nous tous, c'est de tomber dans la contemplation, de tomber dans l'action et oublier la contemplation. Il faut les deux. Il ne faut pas non plus garder que la contemplation. Ça, c'est une erreur. Des gens qui nous disent, Monsieur l'abbé, je prie, je prie, je prie, je fais que ça. Non. Parce que celui qui prie sans garder un minimum d'action pour équilibrer la vie de prière, justement, il va tomber dans ce qu'on appelle une autre erreur qu'on appelle l'angélisme. L'angélisme ouvre la porte à toute une série de dévotions sentimentales, de dévotions à l'eau de rose, et surtout, en général, les gens qui sont tombés dans l'angélisme vont tomber dans l'apparitionnisme, accepter n'importe quel type d'apparition non reconnue par l'Église, et vont finir par perdre la foi. Et donc, il faut demander au bon Dieu cette grâce d'avoir un équilibre. Un équilibre, surtout aujourd'hui. Nous sommes en guerre, mes bien chers frères. Il faut comprendre que nous sommes en guerre, mais pas simplement en guerre physique. Lorsqu'on parle de guerre, les gens imaginent toujours des choses matérielles, des armées qui se battent. On est en guerre spirituelle. Pour sauver qui? Pour sauver l'âme de la France, pour sauver l'âme de nos familles, pour sauver l'âme de nos enfants. Voilà la guerre. Aujourd'hui, les gens pensent plus à ça. Ils voient par exemple le Covid qui se développe soi-disant partout. Ils ne voient plus que ça. Mais ils oublient que la guerre contre le péché, c'est bien plus important que la guerre contre le Covid. La guerre contre le Covid, c'est un détail. Par contre, le fait que le Français moyen vive dans le péché mortel jusqu'au cou, ça c'est grave. Et voilà le combat qu'il nous faut maintenir. Alors, quelle est la condition pour conserver ce combat, pour avoir cette âme de combat? Eh bien, l'évangile du jour va nous le donner. L'évangile du 19e dimanche après la Pentecôte. Préparant le sermon, je me suis aperçu que l'évangile du 19e dimanche donne la réponse. L'histoire d'un roi qui fait un grand banquet pour le mariage de son fils. Et puis, les gens qui étaient invités au banquet ne viennent pas. Ils trouvent tous des excuses. Ah ben, je viens de me marier, j'ai des bœufs à essayer, j'ai une terre que j'ai achetée qu'il faut que j'aille visiter. Ils trouvent tous des excuses. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil. On trouve des excuses pour ne pas venir. Alors le roi va envoyer ses serviteurs chercher tous les gens, les pauvres, les estropiés, et les inviter à son repas. Et à ce moment-là, se passe une scène très bizarre. Donc la maison est remplie, la salle du banquet est remplie, et le roi va venir pour saluer les invités. Et il y a un détail qui dit qu'il s'aperçoit qu'au milieu de sa salle de banquet, il y a une personne qui n'a pas l'habit de noce. On pourrait s'étonner, mais c'est les pauvres. Donc c'est normal qu'ils n'aient pas l'habit de noce. Non, ce n'est pas de cet habit de noce matériel dont il parle. Il n'a pas l'habit de noce. Non seulement il est réprimandé, il est jeté dehors, et jeté dehors dans le lieu des pleurs et des grincements de dents. Donc tous les pères de l'église se sont posés la question, c'est quoi ce vêtement de noce? Et tous les pères répondent de la même façon. Le vêtement de noce, c'est l'état de grâce, la vertu de charité, l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Donc la première condition pour avoir cet équilibre, mes bien chers frères, entre la vie contemplative et la vie active, c'est l'état de grâce. Rappelez-vous Sainte Jeanne d'Arc qui exigeait d'abord, sa statue est là à ma droite, qui exigeait que tous les soldats vivent en état de grâce, soient en état de grâce avant le combat. Et elle expliquait à ses soldats, si les soldats du Christ-Roi ne sont pas en état de grâce, c'est en vain qu'ils portent l'estocade, parce que justement, il manque le plus important. Vous voyez, c'est absolument fondamental à comprendre. Avoir le vêtement de noces. Avoir l'habit de noce, avoir l'esprit de charité, avoir la vertu de charité qui ne consiste pas à aider les pauvres, ce n'est pas ça la charité. La charité, c'est d'abord de vivre en état de grâce. La vertu de charité, c'est une vertu théologale qui nous a été donnée par le bon Dieu pour obéir à sa loi. Donc commençons par vivre en état de grâce. Si je ne vis pas en état de grâce, tout ce que je fais, ça ne vaut plus rien. Je vais tomber dans l'activisme, je vais tomber dans le volontarisme, je vais tomber dans toutes ces erreurs modernes et je vais perdre la foi. Alors demandons, mes chers frères, demandons à ces grands protecteurs, à toi Sainte Vierge Marie, Saint Michel, qui est prince de la milice céleste, Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse, un enfant Jésus, de nous aider à comprendre ces choses-là. Nous sommes en guerre, mes bien chers frères. Nous sommes d'abord dans une guerre spirituelle. En face de nous, nous avons des ennemis qui veulent détruire nos âmes. Et surtout détruire les âmes de nos enfants, c'est absolument évident. Ils veulent faire vivre les enfants dans le péché pour qu'ils perdent la grâce du bon Dieu, perdent la vertu de charité. En plus, l'évangile que je lirai à la fin de la messe, l'évangile du 19e dimanche, nous donne un autre avertissement. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu sait que ceux qui vont se préoccuper des choses importantes, c'est-à-dire qui vont se préoccuper de garder l'état de grâce dans leur âme, c'est le petit nombre. À la fin, lorsque je reviendrai, dit notre Seigneur, qui sait si je trouverai encore la foi? Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Rappelez-vous cette prophétie du cardinal Pio au XIXe siècle qui avait annoncé, il savait que ces temps allaient arriver dans lesquels nous vivons aujourd'hui, et qui a dit que l'Église serait réduite à des dimensions domestiques. C'est son expression. Ça veut dire une dimension domestique, c'est-à-dire quelques familles qui vont garder la foi. Mais le travail se fait. Je le vois très bien aussi dans les petites missions que j'ai. Bon, le premier vendredi, le premier samedi du mois, je vais à Andorre, par exemple. Eh bien, je me rends compte, c'est une toute petite mission, mais on a des gens nouveaux qui commencent à venir maintenant, notamment des jeunes. Il y a tout un travail qui commence à se faire. La chapelle que j'ai à Saint-Mathré, près de Cahors, c'est pareil, il y a des gens nouveaux qui commencent à venir et qui se battent, qui cherchent à se battre, et qui veulent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent les sacrements, ils veulent la formation. Pour ça, je leur donne là-bas une conférence de doctrine. Quand j'y vais une fois par mois, le dernier dimanche de chaque mois, et cet après-midi, je vais ouvrir une petite chapelle, peut-être, sans doute, on va voir ce qu'on peut faire, près de Montpellier. Encore des gens demandent. Ce n'est pas des groupes énormes, vous n'attendez pas à avoir des centaines ou des milliers de personnes, bien sûr que non. Mais c'est des gens qui se battent pour conserver la charité. Qu'est-ce qu'ils veulent? La doctrine. Donnez-nous la doctrine, donnez-nous les sacrements, donnez-nous la grâce du bon Dieu par les sacrements. Alors, évidemment, la condition, c'est de vivre un état de grâce, je viens de vous l'expliquer. Alors, on peut se dire, même sous l'abbé, moi, l'état de grâce est bien joli, même sous l'abbé, il y a tous mes péchés du passé. Qu'est-ce que je vais faire de ces péchés du passé? D'abord, n'oubliez pas que lorsque le bon Dieu pardonne, il oublie, et d'un. Donc les péchés du passé, ils sont effacés. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, il y a deux jours, c'était la fête d'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, un des plus grands docteurs de l'Église, Saint Jérôme. Saint Jérôme, qui est le prince des exégètes, c'est le plus grand saint qui a expliqué l'Écriture sainte. Saint Thomas d'Aquin a beaucoup repris Saint Jérôme. Et Saint Jérôme était un homme d'une très grande intelligence, certainement une des plus grandes intelligences que la Terre ait jamais portée. Pour pouvoir faire ses études, à partir de toute une série des textes anciens, les plus primitifs, les plus anciens de l'Écriture sainte, il avait appris non seulement le latin, le grec, l'hébreu, en plus il parlait le syriaque, il parlait le chaldéen, il parlait toute une série de langues anciennes, pour pouvoir étudier tous ces textes, qui ont maintenant aujourd'hui disparu, ils ont tous été brûlés à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par les musulmans. Et donc, Saint Jérôme aimait énormément la nativité. Il méditait tout le temps sur l'incarnation. Et pour pouvoir méditer plus facilement sur l'incarnation de notre Seigneur, il a vécu, il a passé une grande partie de sa vie à l'emplacement même où notre Seigneur Jésus-Christ est né, à Bethléem. Et là, il a construit un couvent, les premiers couvents pour sainte femme romaine qui était venue suivre la vie religieuse au couvent que Saint Jérôme avait élevé, notamment avec sainte Paola, qui dirigeait le couvent. Et donc Saint Jérôme a médité à cet endroit, l'endroit de la naissance de notre Seigneur. Et un jour, c'est une histoire que j'explique souvent en retraite, mais je voulais la donner pour ceux qui n'ont jamais entendu, parce qu'elle est magnifique. C'était le 24 décembre au soir, il méditait sur le lieu de la naissance de notre Seigneur, voir que notre Seigneur lui apparaît au milieu de sa méditation. Imaginez un peu. Notre Seigneur Jésus-Christ qui lui apparaît sous la forme d'un petit enfant. Et qui lui dit, Jérôme, demain c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que vous me donnez pour mon anniversaire? Imaginez que le bon Dieu m'apparaisse dans ma méditation ce demain matin et qu'il me dise, Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous me donnez pour mon anniversaire? Qu'est-ce qu'il lui répondre? Évidemment, Saint Jérôme était un peu surpris, qu'est-ce qu'il dit? Il se lève et dit, venez avec moi. Il va dans sa bibliothèque et il offre à l'enfant Jésus son dernier travail. Le fondamental de Saint Jérôme, la traduction en latin de tous les textes anciens de la Bible pour en faire une traduction officielle de l'Église qu'on appelle la Bible de la Vulgate. C'est la Bible de Saint Jérôme. Il donne cette Vulgate à notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, enfin, ouvre le livre, vérifie un peu le travail. Il dit, c'est bien. C'est bien. Vous avez bien travaillé. Puis il pose le livre et dit, quoi d'autre? Alors Saint Jérôme, un peu surpris quand même. En plus, Saint Jérôme, c'est quelqu'un qui a eu tempérament, hein, il a eu du caractère. Alors, il va un peu plus loin dans la librairie et dit, oh, bon Dieu, écoutez, je vous offre tous mes livres. Voilà, tous ces livres-là, il y a des centaines et des centaines, j'ai passé toute ma vie à écrire, je vous offre tout ça. C'est pour vous. Alors, l'enfant Jésus commence à regarder un peu les titres des livres, il en ouvre quelques-uns. C'est bien, vous faites du bon travail. Merci beaucoup. Quoi d'autre? Alors là, Saint Jérôme a commencé à s'énerver. Mais quand même, il s'est tenu à carreau, parce que devant le bon Dieu, on ne fait pas n'importe quoi quand même. Et donc, il dit, bon, venez avec moi. Il traverse la rue et il va faire visiter à notre Seigneur Jésus-Christ le couvent qui venait de monter pour les saintes femmes de Rome. Et l'enfant Jésus va visiter le couvent. Et puis il dit, c'est bien, elle fait du bon travail. Je suis très content de voir ces femmes qui prient. Merci beaucoup. Quoi d'autre? Alors là, Saint-Jérôme a explosé, littéralement. J'ai tout donné, j'ai plus rien donné, et vous m'en demandez encore. Et il faut entendre, méditer la réponse magnifique de notre Seigneur à Saint-Jérôme. Jérôme, 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 donnez-moi vos péchés que je puisse les repardonner. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est la dernière des choses que j'aurais pensé offrir au bon Dieu. Personne n'aurait pensé à offrir au bon Dieu des péchés. Et bien voilà le cadeau de Noël que Saint Jérôme avait, que notre Seigneur avait demandé à Saint Jérôme. Donnez-moi vos péchés pour que je puisse les repardonner. C'est un peu ce qu'il faut faire, mes bien chers frères. À chaque fois que vous assistez à la Sainte Messe, lorsque le prêtre offre le pain et le vin au début de l'offertoire, avant que la Sainte Couronne, la Sainte, avant que la transsubstantiation arrive, donc c'est encore du pain, encore du vin, vous mettez sur la patène du prêtre tous vos péchés. Le prêtre fait la même chose, on offre tout pour demander au bon Dieu de nous sanctifier avec ça. Un autre exemple qu'on peut donner aussi, c'est l'exemple d'un autre très grand saint, Saint Rémy, c'était sa fête hier. Saint Rémy, évêque à 22 ans. Évêque à 22 ans. Il est mort en 530, je crois. Il a été évêque pendant plus de 70 ans. C'est lui qui a préparé Clovis au baptême, aidé par un autre très grand saint évêque, Saint Vaast. C'est lui qui a ouvert dans cette partie de la France, dans le nord de la France, toute une série d'évêchés. L'évêché d'Arras, par exemple, l'évêché de Laon, ont été fondés par Saint Rémy. Et lorsque Saint Rémy a préparé Clovis à recevoir le baptême, Clovis s'est converti, non sans mal, c'était pas facile, c'est un barbare, très violent, et s'est converti grâce surtout à l'influence de sa femme, son épouse, Sainte Clotilde. Et le jour du baptême, Saint Rémy lui a dit, courbe la tête, fier sycambre, adore ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. C'est ça ce que l'on doit faire aujourd'hui. Nous devons, mes bien chers frères, adorer ce que le monde brûle et brûler ce que le monde adore. Comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous qu'on puisse être ami-ami avec des gens qui ont deux buts totalement opposés? Le monde veut adorer ce que nous brûlons et nous voulons brûler ce que le monde adore. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la Très Sainte Vierge Marie, cette grâce, justement, de comprendre toutes ces belles choses. De comprendre la grâce que nous avons, justement, d'avoir eu tous ces protecteurs. Ce n'est pas simplement pour les Français, les saints appartiennent à l'Église universelle. L'Église attribue certaines protections à certains saints, ce que je viens de vous expliquer. Cependant, tous les catholiques du monde entier peuvent s'attribuer, justement, les protections de ces grands saints. Donc demandons à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a promis avant de mourir, à faire passer son ciel à faire du bien sur la terre. Demandons à Sainte Thérèse, demandons à Saint Michel, demandons à Sainte Jeanne d'Arc, demandons à Très Sainte Vierge Marie de nous aider à avoir cette foi forte, cette foi qui peut déplacer les montagnes. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais la foi gros comme un grain de sénevé. Si je donnais un ordre à cette montagne de se déplacer, elle le ferait. Alors demandons la protection de tous ces grands saints du ciel. Et ne nous décourageons pas si, humainement parlant, la société devient de plus en plus pourrie. Nous vivons dans une gigantesque poubelle. On ne peut pas vivre dans une gigantesque poubelle sans évidemment se sentir mauvais par la force des choses, mais sur un tas de fumier, des roses qui peuvent pousser. Bien imaginez que chacun d'entre nous, nous soyons une rose qui pousse sur un tas de fumier pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Mais même si la rose pousse sur un tas de fumier, la très Sainte Vierge Marie est parfaitement capable de venir couper la rose pour l'offrir à son divin Fils. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. Demandons la protection de ces grands saints, demandons la protection de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que nous fêtons aujourd'hui. Et supplions ces grands saints de nous aider à conserver la foi coûte que coûte, parce qu'avec la foi, nous pourrons avoir la charité est la clé qui ouvre la porte du paradis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.